France Culture.
Talmudique. L'étude, la lecture et l'interprétation en dialogue, la marloquette, sont au cœur de la vie, valeur cardinale de la tradition juive. La discussion, l'échange, la confrontation des idées, serein, y font naître une pensée qui soustrait les textes à l'idéologie. Pourtant, nombre de ces textes foisonnent de rivalités violentes. Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères, pour ne citer que la Genèse. L'étonnement s'apaise si l'on se souvient qu'il ne s'agit pas de modèles à imiter, mais de récits à interpréter. Leur lecture aide à nommer jalousie et loyauté, à défaire les impasses et nourrit les pratiques où l'interprétation est décisive, je pense à la psychanalyse. Alors, comment Bible et psychanalyse s'éclairent-elles pour approfondir notre compréhension des liens fraternels, de leur violence et pour accroître l'efficacité de la cure? Ce sont ces questions qu'explore Léa Sand, psychanalyste et fine lectrice de la Bible, dans son ouvrage « Les rivalités fraternelles, de la Bible à la psychanalyse » paru aux éditions Imago, où la scène biblique devient un laboratoire pour penser le psychisme. Léa Sand, bonjour.
Marc-Alain Wacknin, bonjour.
Léa Sand, vous êtes psychanalyste depuis une quarantaine d'années et vous avez exercé pendant plus de 20 ans dans le cadre de la protection maternelle et infantile, PMI comme on dit, et vous êtes membre de la Société de psychanalyse freudienne et vous êtes une grande lectrice de la Bible depuis votre enfance. Et ma première question portera sur le titre de votre livre, « Les rivalités fraternelles », qui sonne comme un oxymore. La fraternité, en effet, n'est-elle pas une valeur qui a été mise au pinacle de nombreuses sociétés, Léa Sand?
Oui, effectivement, vous soulignez la valeur oxymorale de l'expression de titre de mon ouvrage. Et il y a un écart entre fraternité et fraternel. Le fraternel suppose d'emblée quelque chose qui nous fait entendre une tension entre le sujet et son semblable. Ils sont tous les deux dans l'attente de quelque chose de proche. Et j'ai pu observer, puisque j'ai travaillé longtemps dans la petite enfance, comme vous l'avez rappelé, j'ai pu observer en crèche, où j'ai travaillé pendant longtemps, les bébés qui marchent à peine, qui ont 20 mois et qui jouent ensemble, et en fait ne sont pas toujours ensemble, mais entrent déjà dans une rivalité qui semble concerner le jouet que chacun peut avoir dans sa main. Et quand on observe de près la scène, un bébé voit un autre qui joue avec un hochet, un camion, et il lui arrache l'objet de la main. Et en fait, il s'aperçoit quand il a l'objet dans sa main que ce n'est pas ce qu'il souhaitait prendre. Ce qu'il souhaitait vraiment, c'est la jouissance de l'autre qu'il avait aperçu dans son regard, dans sa gestuelle et la passion qu'il avait à explorer cet objet. Et quelque chose de cette rivalité m'a fait travailler parce que les petits humains sont dans le désir d'approcher la jouissance de l'autre.
C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, le fraternel, c'est la relation avec le semblable, mais dans cette tension qui essaye de s'accaparer la jouissance de l'autre, tout en étant toujours déçu, parce qu'il y a peut-être une confusion entre l'être et l'avoir, alors que la fraternité, c'est une relation avec l'autre, mais qui est, je dirais, apaisée, réussie. C'est cette distinction que vous faites entre fraternel et fraternité.
Alors effectivement, c'est peut-être le vecteur qui m'a mise au travail à partir de l'écoute de mes patients, adultes et enfants. Parce qu'effectivement, l'écart entre fraternité et fraternelle, c'est peut-être ce qui va faire tiers à un moment donné par le truchement de la loi. À partir du moment où il y a une dimension symbolique qui intervient entre les deux semblables en rivalité parce qu'ils visent le même objet, on a une possibilité avec l'ordre symbolique, avec la loi, avec la dimension du langage, de pouvoir d'une part canaliser les passions, canaliser les pulsions et entrer dans une forme de relation qui permettrait peut-être d'être ensemble pour non pas viser un objet, mais atteindre un projet. Alors c'est un peu le cheminement de mon livre.
Je rappelle que votre travail de psychanalyste et de psychologue clinicienne et votre engagement clinique avec les enfants a toujours croisé ces deux approches que sont les études bibliques et la psychanalyse. Comment en êtes-vous arrivé là, personnellement, et comment vous situez-vous par rapport aux nombreux chercheurs et chercheuses? Car il est important de le dire, cette rencontre entre textes de la tradition juive et psychanalyse est très ancienne, presque aussi vieille que la psychanalyse elle-même, Léa Sand.
Alors en effet, beaucoup de travaux qui précèdent mes recherches et qui accompagnent mes recherches ont été publiés dans le domaine qui concerne l'articulation entre la Bible hébraïque et la psychanalyse. Et je dois dire que la première partie, vous me posez la question sur un plan personnel, dans la toute première partie de ma vie, j'ai eu une imprégnation dans ma famille, une imprégnation de l'hébreu, des textes bibliques et talmudiques, puisque mon père invitait à la maison, chez nous, des amis intéressés par les textes bibliques de manière très écuménique. Il y avait des personnes de confession juive, mais il y avait aussi des chrétiens, des communistes, des musulmans qui tous s'intéressaient au texte et surtout à l'exégèse des textes. Et toutes les semaines, il y avait un petit groupe de personnes qui commentaient les textes. Et moi, j'étais une enfant, puis une adolescente. Bon, je me suis un peu éloignée des textes bibliques en me disant « Oh là là, c'est une histoire très ancienne, ça, le monde moderne ne peut pas s'encombrer de choses aussi anciennes. » Et je suis partie faire mes études de psychologie, puis assez ardemment de psychanalyse, dès que j'ai découvert les textes de Freud à l'adolescence. C'est bien longtemps après que je suis revenue, après une longue boucle, pour articuler justement les textes de Freud qui me parlaient en fait de la même façon d'interpréter les textes. Et j'ai commencé à mettre en articulation les deux paradigmes.
Et Freud lui-même d'ailleurs a commencé à apprendre à lire dans la traduction de la Bible et de la Bible Philipson. Je crois qu'il y a ici, si vous avez peut-être la référence dans son autobiographie.
Alors, dans son autobiographie, il y a eu deux publications. Une publication en 1925, et la phrase que je vais vous citer n'était pas dans cette publication. On dit à la suite d'une erreur accidentelle. Bon, et en 1935, la phrase apparaît. Il dit « Je me plongeais très tôt dans l'étude de la Bible. Cela a déterminé de façon durable l'orientation de mes intérêts, comme je m'en suis aperçu plus tard. » Et cette phrase, effectivement, ouvre un boulevard, parce que je pouvais lire là que cette imprégnation première a été assez déterminante, non pas dans sa connaissance seulement de la Bible, mais dans la méthode talmudique. Et dans un échange de lettres avec Karl Abraham, on voit dans la correspondance un moment où Freud demande à Karl Abraham d'être un peu indulgent avec Jung parce qu'il n'a pas acquis dans sa culture la méthode talmudique. Karl Abraham comprend très bien ce que Freud lui dit et il lui dit « mais effectivement, dans nos travaux actuellement, il fait référence aux études talmudiques, il dit « la méthode talmudique ne peut pas nous avoir complètement quittés ».
Oui, c'est très, voilà, très éloquent. Et alors, il y a, en dehors de Freud, après Freud, de très nombreux chercheurs, psychanalystes, et on va parler des Français pour que ça parle plus aux auditeurs, qui ont aussi consacré leur vie et leur recherche à cette rencontre entre la Bible et la psychanalyse. Et je pense que ces auteurs vous ont beaucoup appris, Léa Sand.
Alors, effectivement, beaucoup d'auteurs m'ont accompagné. Je pense aux travaux de Gérard Haddad, qui a été le premier auprès de Lacan à attirer l'attention de Lacan sur la méthode talmudique précisément et sur les textes bibliques. Et Lacan a fait beaucoup référence aux textes bibliques et même au chauffard, et même à certains moments dans ses écrits, il conseille aux personnes présentes à son séminaire d'aller faire un tour dans une synagogue pour écouter le chauffard.
Le chauffard, c'est la corne de bélier que l'on sonne à Rosh Hashanah, le jour de l'an, et le jour de Kippour. Le chauffard, d'ailleurs, était un objet qui a été travaillé, si mes souvenirs sont bons, par Reich dans un de ses livres consacrés au rituel. Alors, il y a Gérard Haddad, mais je pense qu'il y a encore d'autres.
Il y a Jean-Pierre Vinter. J'ai participé pendant des années au séminaire de Jean-Pierre Vinter qui se passait au centre de l'Alliance israélite et qui était passionnant, où effectivement il travaillait toujours sur des textes psychanalytiques, mais en les articulant avec des textes bibliques. Et puis il y a les écrits de Daniel Siboni qui ont été extrêmement importants, notamment les lectures bibliques et ses références multiples et sa connaissance de l'hébreu m'ont vraiment beaucoup appris. D'ailleurs, je le cite concernant la loi.
Il y a encore d'autres personnes.
Alors, il y a Marie Balmary qui, avec L'homme au statut, m'a aussi ouvert sur la dimension personnelle que Freud avait avec son père et le cadeau que son père lui fait de cette Bible de Philipson à ses 35 ans, où il met une dédicace de la main de Jacob Freud pour son fils Shlomo.
Qui dit la Bible dit l'hébreu, et je pense que par rapport à l'hébreu, vous avez été aussi formé particulièrement par un maître.
Oui, effectivement, je voudrais rendre un hommage à Oded Eldad, dont j'ai suivi les cours pendant 18 ans au Cercle Bernard Lazare. Oded Eldad était anthropologue, il n'a pas laissé d'écrits, mais il nous a proposé une méthode de travail et d'étude des textes bibliques et du Talmud, où nous étions invités à nous-mêmes nous confronter aux mots en hébreu et aux racines des mots. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à vraiment entrer dans la langue hébraïque, que j'avais apprise comme ça dans l'enfance, mais là j'ai senti la dimension du signifiant dans tous les textes que Oded nous a proposé de commenter. Et nous avions particulièrement travaillé une année, deux années même, sur les dualités dans la Bible hébraïque. Et c'est aussi dans cette perspective-là que j'ai commencé à travailler sur la rivalité fraternelle dans la Genèse.
Alors venons-en à cette rivalité fraternelle qui est le sujet de votre livre. Dans les premières pages de votre livre, vous nous invitez à méditer sur un thème inattendu, un thème biblique inattendu, rarement exploré dans les recherches contemporaines et qui éveille la curiosité du lecteur. Il s'agit du thème des villes de refuge, un thème apparemment éloigné de celui des rivalités fraternelles. Pourquoi Léa Sand avoir commencé par ce thème inattendu? Et quel lien, en fait, entretient-il avec votre réflexion sur la rivalité et la violence entre les frères?
Alors, c'est un thème qui est évoqué en deux occurrences différentes dans la Bible, une fois dans les Nombres, le livre des Nombres, et puis une fois dans le Deutéronome. Au moment où le peuple, après la longue traversée du désert, entre en terre de Canaan, il y a une disposition légale qui est préconisé pour construire une société. Alors, le peuple a reçu les 10 paroles, les textes de loi, et pourtant, il y a cette disposition légale étonnante et qui m'a suffisamment intéressée pour faire le lien entre les querelles fraternelles et les textes de loi, parce qu'il y a effectivement un petit maillon qui intéresse la psychanalyse à cet endroit-là et qui passe inaperçu, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'accéder à la loi s'il n'y a pas prise en compte de la dimension subjective et de l'involontaire. Les villes de refuge, ce sont des villes dans lesquelles le meurtrier involontaire peut trouver refuge, parce que il y a un vengeur qui peut, tout en n'étant pas vraiment légitimé, parce que la vengeance est condamnée, mais lorsque quelqu'un a tué involontairement, et nous le voyons très vite dans le texte biblique, je pense que Caïn n'avait pas l'intention de tuer, mais il a tué. Moïse n'avait pas l'intention de tuer l'Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il intervient dans une querelle et il tue un Égyptien et il se sent coupable, il cache son meurtre. Mais c'est un meurtre involontaire. Et cette question du meurtre involontaire, elle est très importante parce que, sans vouloir faire d'anachronisme, elle nous parle de la part non maîtrisée dans la condition humaine. L'homme est à la fois coupable et innocent. Il est innocent et il est coupable. Et ça, c'est vraiment intrinsèque. Et cette petite phrase sur la disposition légale pour protéger le meurtrier involontaire du vengeur, parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui va se charger de venger la personne qui est morte. Et donc, il faut que le meurtrier involontaire puisse le plus vite possible atteindre une ville. Donc, la route doit être dégagée. Il doit y avoir une ville qui l'accueille. Et Lévinas fait un commentaire magnifique de cette disposition légale dans un chapitre qui s'appelle « Les villes de refuge ». dans l'au-delà du verset, il nous indique par là même ce qu'il faut vraiment comme disposition pour qu'un être humain continue à vivre. Et notamment, il doit continuer l'étude. Et il y a des choses qui peuvent nous paraître étonnantes. Si ce meurtrier involontaire est l'élève d'un maître, eh bien le maître doit aussi aller dans la ville de refuge pour ne pas interrompre l'étude.
Et inversement, si c'est le maître qui a tué de manière involontaire, c'est toute son école qui est invitée à rejoindre la ville de refuge pour que le maître puisse continuer à enseigner, parce que il faut vivre. Donc il y a cette dimension de l'involontaire que vous citez. Et je crois que ici même, dans cette question des villes de refuge, il y a déjà la question de la loi sinaïtique et la loi symbolique qui apparaît.
Oui. Ce qui m'est apparu et qui a été une amorce pour moi de cette recherche, c'est que toutes les rivalités fraternelles que nous pouvons lire dans le récit de la Genèse sont d'une certaine manière reprises de façon à anticiper sur ces difficultés dans la loi qui advient au moment du livre de l'Exode. Nous avons au début du livre de l'Exode une phrase qui nous dit qu'on a changé de paradigme, c'est « et advient un pharaon qui n'a pas connu Joseph ». Or, voilà, le monde de la Genèse va s'achever un peu avec Joseph, et nous arrivons avec Moïse, et nous n'oublions pas, voilà, c'est ce que je voudrais rappeler dans mon travail sur la loi, que la loi ne serait pas advenue dans le travail de Moïse s'il n'avait pas été accompagné par Aaron. Et Aaron, c'est son frère. Alors, ces deux frères-là sont une fratrie qui vient comme en réponse à toutes les fratries qui se sont déchirées, même s'il y a parfois des réconciliations très explicites dans le texte entre Joseph et ses frères, entre
Jacob
et Ésaü qui se réconcilient et où chacun voit que, bon, malgré la distribution des bénédictions qui aurait été un peu faussée par Jacob, bon, il y a réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation, bien sûr, entre Caïn et Abel.
Donc on change de paradigme.
Et là, on change de paradigme et Moïse et Aaron sont deux frères qui vont travailler ensemble. Ils vont travailler dans la complétude. Ils sont très différents. Ils n'ont pas grandi ensemble puisque Moïse a été, on peut dire, un enfant caché, au sens de l'expression que l'on utilise pour la Shoah au XXe siècle. Il est protégé et il grandit dans une autre famille que la sienne. Et ces deux frères-là vont travailler ensemble avec leurs différences. L'un est plutôt dans la bienveillance, et c'est Aaron, et Moïse est dans la loi. C'est une manière de dire que l'on peut, dans la fratrie, quand on a un projet en commun, travailler ensemble. Et c'est pour moi ce que j'ai appelé le début de la dimension institutionnelle.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord.
Darker, une chanson de Leonard Cohen qui, rappelons-le, fit ses armes dans le chœur d'enfants de sa synagogue à Montréal. Dans cette magnifique chanson, Leonard Cohen reprend plusieurs fois la première phrase en anglais du Kaddish, la prière des morts, qui est en fait une glorification du nom de Dieu, que soit magnifié et sanctifié son grand nom. Mais Léa Sand, si vous avez choisi cette chanson, c'est parce qu'un mot en hébreu y est introduit et répété par Leonard Cohen, puis psalmodié par le Chazan, le chantre de la synagogue Gidon Zellermeyer, qu'il avait invité dans son album sur ce titre. Ce mot, c'est « Ineni », qui signifie « me voici »,« Ineni », un mot-clé de votre recherche dont vous dites qu'il est en quelque sorte son point de capiton.
Ineni, qui veut dire « me voici », c'est une expression que je connaissais, mais sans avoir remarqué que dans le livre de la Genèse, à chaque entrée d'un protagoniste qui va prendre le relais du projet biblique, ce mot est prononcé. Et alors il est prononcé par Abraham, par Isaac,
par Moïse,
le personnage prononce le Ineni une fois qu'il a été appelé. Il est appelé par Dieu et il répond « Ineni, me voici ». Et ce « me voici » indique pour moi une forme d'engagement dans l'action. Et c'est un détonateur de la prise de parole. C'est-à-dire que la parole vient au sujet comme une réponse à un grand autre, au sens où Lacan l'emploie avec un A majuscule, pour répondre à un appel. On ne prend pas la parole si on n'est pas appelé ou invité. Je souris en pensant à l'invitation que vous me faites aujourd'hui. Prendre la parole, cela suppose un grand autre qui vous appelle. Lévinas dit que c'est effectivement une manière d'entrer dans la parole, le Ineni. Alors, j'ai repéré les Ineni de tout le texte de la Genèse et à chaque fois, il y a un avant et un après. Alors, pourquoi j'ai appelé ça le point de capiton ? Le point de capiton, c'est une expression de Lacan qui prend la métaphore du matelassier. Le matelassier, il a pour tâche de faire tenir ensemble toutes les couches successives d'un matelas. Et pour que ça tienne ensemble, il faut qu'il y ait un point. Tous ceux qui connaissent un peu la couture savent ça. Il faut qu'il y ait un point qui parte du bas et qui monte et qui prend le bouton tout en haut. Et il redescend, le fil redescend ensuite avec l'aiguille et le bouton est posé. Autour de ce bouton, qui fait point de capiton, un certain nombre de plis s'ordonne. Et Lacan nous a appris qu'en fait, dans le discours du sujet, il faut repérer, entendre le point de capiton qui va faire qu'autour de ce point-là, tous les éléments du discours vont s'ordonner et vont nous livrer quelque chose du cheminement de la parole, de son mouvement. Et c'est Alain Françon, qui est un grand, grand metteur en scène, qui un jour, en me parlant comme ça de manière amicale, de sa manière de mettre en scène un texte, il a mis en scène de grands textes classiques, il me dit « je ne peux pas envisager une mise en scène si je n'ai pas trouvé le pivot, l'endroit où il y a un point autour duquel les plis de la pièce du discours vont s'ordonner ». Et je lui ai dit « il s'agit exactement du point de capiton ». Et moi j'ai repris cette expression quand j'ai vu que autour de Ineni, à chaque fois, le lecteur sait, dans la Bible hébraïque, qu'il va se passer quelque chose de très important dans le récit.
Votre recherche prend son point de départ à la fois dans les textes de la psychanalyse, de Freud, de Lacan, vous venez de nous parler de ce point de capiton, mais vous avez aussi une grande expérience clinique avec vos patients, d'abord pendant très longtemps, vous nous l'avez dit, avec les enfants et leurs parents, puis jusqu'à aujourd'hui avec des adultes que vous recevez sur le divan, comme on dit. Que disent-ils ? Je pourrais maintenant vous demander quel est leur point de capiton et qu'entendez-vous particulièrement dans le discours de vos patients ?
Alors c'est à partir de mes patients justement, mes petits patients qui sont jeunes, qui sont des enfants, et puis les enfants qui continuent de parler dans l'adulte qui vient en analyse, que j'ai entendu cette exigence éthique, c'est-à-dire un appel à la loi, lorsque la souffrance de la rivalité fraternelle devient insupportable. Et ça, je l'ai entendu de manière récurrente. J'ai grandi comme psychanalyste en m'appuyant sur la phrase qui concerne le complexe d'Œdipe, où il est question de désirer le meurtre du père. Et je dois dire qu'avec mes collègues, on s'était rarement attardé sur la rivalité meurtrière, parfois, à l'encontre des frères, des semblables. Et c'est petit à petit, avec les patients enfants, et puis avec beaucoup d'adultes, que j'ai entendu la souffrance, d'une part, qui parle de la haine du frère et l'envie de tuer le frère au sens où Ésaü le dit en lui-même, mais il le dit quand même, il dit à propos de Jacob, je vais le tuer, il a volé ma bénédiction, je vais le tuer. Et j'ai entendu les patients souffrir de la tentation de tuer le frère et certains souffrir aussi de la peur d'être haïs, la souffrance de subir la haine de l'autre et la peur d'être anéanti. Alors, pas toujours tué d'une manière physique, mais tué dans sa dignité, d'être humilié, d'être empêché, de ne pas pouvoir prendre la parole, de ne pas pouvoir exercer sa vie, ses fonctions. Et j'ai, à partir de cette souffrance que j'ai entendue dans ma clinique, les personnages de la Bible sont venus me dire « Regarde un peu, nous aussi, on en a bien bavé de cette histoire. »
Et ces personnages de la Bible, vous dites aussi, dans ces rivalités fraternelles, chacun disait « Mais c'est pas juste, parce que l'autre a reçu plus que moi je n'ai reçu. Oui. » Et le mot « c'est pas juste » était quelque chose de récurrent, je crois, dans votre clinique, Léa Sand.
Alors le « c'est pas juste », je le dois aux enfants. Les enfants, en début de travail analytique, quand ils viennent voir un psy, comme on dit aujourd'hui, la phrase « c'est pas juste » arrive très vite. Dès la deuxième séance, ça vient. C'est pas juste. Effectivement, ce n'est jamais juste. La justice, c'est un horizon. Le droit existe, mais la justice, elle est loin, elle est à l'horizon. C'est un vecteur. Et les enfants repèrent très vite cette absence de justice et ils réclament de l'éthique. Ils ont une exigence à ce niveau-là. Et la phrase « c'est pas juste », elle vient quasiment chez tous mes patients, quelle que soit leur place dans la fratrie. Je voulais ajouter qu'effectivement, il n'y a pas de bonne place. Parce que souvent, les cadets imaginent que les aînés ont une bonne place. Les aînés imaginent que les cadets ou les benjamins ont une bonne place. En fait, chacun souffre à la place où il est de ce qu'il n'a pas.
Au-delà de cette question de rivalité fraternelle, il y a dans votre livre une réflexion sur un aspect de la biographie de Freud qui est intéressant par rapport au sujet que vous traitez. Il fut à partir de 1897 membre de la loge viennoise du Bnebrit, qui est une branche juive de la franc-maçonnerie, où les membres s'appelaient frères. Si j'ai cité cette proximité de Freud avec la fraternité, puisqu'il s'appelle Bruder, une fraternité qu'il vécut existentiellement dans le cadre du Bnebrit et dans sa vie personnelle, c'est pour souligner que c'est cependant vers le parricide qu'il se tourne pour élaborer ce qui va devenir le célèbre complexe d'Oedipe. Or le parricide, et c'est ce que vous dites dans votre livre, n'apparaît jamais dans le texte biblique. Comment, Léa Sand, conciliez-vous votre lecture des rivalités fraternelles sublimées en fraternité, réparées et apaisées, et la lecture de Freud? Y a-t-il une véritable contradiction sur le plan psychanalytique?
Effectivement, il a été Bruder, c'est-à-dire frère au Bnebrit, et il est resté au Bnebrit toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et je dois dire que c'est dans la loge du Bnebrit qu'il a fait ses premiers exposés de psychanalyse, notamment sur l'interprétation des rêves. Je voudrais préciser à ce propos que Freud, en fait, commence en tant qu'analyste, psychanalyste, avec Joseph, qui le fascinait, et il termine sa carrière, sa vie, son œuvre de psychanalyste avec Moïse. Donc c'est vraiment borné d'une part par Joseph et d'autre part par Moïse. Ça me semblait important de le préciser. Alors, pourquoi est-ce que Freud se tourne vers le mythe grec? J'ai lu dans le livre de Gérard Haddad que peut-être Freud faisait une erreur en privilégiant le complexe d'Œdipe plutôt que le complexe de Caïn.
C'était une expression forgée par Gérard Haddad.
Par Gérard Haddad, absolument. Cependant, je ne pense pas qu'on doive choisir. Ce qui me paraît être un pont entre les deux types de complexes, c'est qu'ils sont engendrés par une malédiction ou une bénédiction. C'est-à-dire que ce sont les paroles de la malédiction que subit Œdipe, malédiction qui est adressée à son père Laïos pour une faute grave que Laïos a faite, Et il est dit dans cette phrase que Laïos aurait un fils, que ce fils tuera son père et épousera sa mère. C'est une phrase vraiment sidérante et tellement fascinante que je pense que nous avons été captifs pendant des générations du contenu de la phrase. Et j'ai voulu m'intéresser à la forme de la phrase, c'est-à-dire, et ça intéresse la psychanalyse, parce que la forme de la phrase, c'est une parole performative. Une parole qui vient s'inscrire dans le cheminement d'un sujet, qui s'inscrit dans sa vie, dans ses choix, dans ses signifiants, et cette parole n'aura de cesse que de s'actualiser. Et c'est ce qui se passe pour les personnages de la Bible hébraïque. Ils reçoivent une parole, et bien souvent ils courent après une bonne parole pour recevoir la bonne bénédiction, parce qu'ils savent que c'est cette bénédiction-là qui va œuvrer pour eux toute leur vie. Et ils redoutent la malédiction. Et ces paroles, elles agissent dans le psychisme humain. Et ça regarde la psychanalyse, parce que c'est notre travail, c'est notre matière en tant qu'analyste. Les paroles que nous avons reçues et qui nous ont déterminées, au sens du déterminisme psychique, qui est la grande trouvaille de Freud, cela nous a déterminés à faire des choix dans notre vie, ou au contraire même à être totalement inhibés quant aux choix à faire.
Merci Léa Sand pour cette profonde et vraiment passionnante conversation. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Les rivalités fraternelles, de la Bible à la psychanalyse. C'est aux éditions Imago et je dois dire à quel point la lecture de ce livre m'a enchanté. Merci encore Léa Sand.
Je vous remercie beaucoup Marc-Alain Wakenin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Éric Perruchot-Tréboulet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.